Vous êtes en train de présenter par Alain.
Bonsoir. Le Parlement de la RDC, récemment élu, et le nouveau gouvernement devraient profondément modifier la manière dont sont gérées les ressources minières, pétrolières et forestières du pays. C'est la conclusion du dernier rapport de l'ONG International Global Witness, publié lundi dernier à Londres, en Grande-Bretagne. Comment analyser ce rapport et que faut-il pour améliorer la gestion des ressources naturelles en RDC? Pour en parler, nous recevons comme invité Daniel Balint-Torti, chef de campagne RDC à Global Witness. Monsieur Torti, bonsoir.
Bonsoir.
Willy Kalingay, directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Monsieur Kalingay, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. C'est Lem Samoania, coordonnateur adjoint du programme d'appui au secteur des mines promis, culture dépendant du ministère des Mines. Vos réactions sont très nombreuses comme d'habitude et nous vous en remercions. Dikindambo de Lubumbashi au Katanga, cette ONG a totalement raison car notre génération se comporte comme si le monde va s'arrêter avec nous. Ces ressources sont exploitées en dehors des règles économétriques. Il s'agit d'une exploitation sauvage, irrationnelle et irresponsable qui ne permet ni la maximisation de la production, ni le renouvellement, moins encore sa conservation pour les générations futures. Carlos Benga de Butembo, Nord Kivu, la turbulence des prédateurs internes et les convoitises extérieures, souvent antagonistes, sont des problèmes réels pour un gouvernement qui n'a pas les moyens ni d'exploiter son sous-sol, ni de le protéger, ni encore de surveiller ses puissants exploitants. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocati.net.
Lundi dernier, l'ONG International Global Witness a publié un nouveau document d'information qui présente des conclusions préoccupantes sur la manière dont les secteurs congolais des mines, des hydrocarbures et de l'exploitation forestière sont gérés. Parmi les recommandations, Global Witness soutient que le Parlement de la RDC, récemment élu, et le nouveau gouvernement devraient profondément modifier la manière dont sont gérées les ressources minières, pétrolières et forestières du pays. Cela pour garantir que les ressources naturelles soient utilisées dans l'intérêt de la population et empêcher que les auteurs d'actes de corruption et de mauvaise gestion ne s'en emparent. Pour cette ONG, les dirigeants politiques ont des ressources considérables qui pourraient améliorer le niveau de vie de la RDC. Lévin Mbwinga a lu ce rapport pour nous.
Dans ce document de 4 pages intitulé Programme de réforme 2012, Global Witness déclare que le précédent gouvernement congolais a secrètement cédé des actifs miniers lucratifs à des entreprises obscures. Certains de ces actifs ont été vendus à un prix très inférieur à la plupart des estimations commerciales de leur valeur. C'est pourquoi il estime que tous les détails relatifs à ces ventes devraient être divulgués et que des enquêtes impartiales devraient être ouvertes sur tous les cas de corruption présumés. En ce qui concerne le commerce des minerais, Global Witness constate que des groupes armés et des réseaux criminels au sein de l'armée congolaise financent leurs activités grâce au contrôle illégal des mines dans certaines régions de l'est du Congo. Ils demandent à ce sujet au gouvernement congolais de tenir l'engagement qu'il a pris de retirer l'armée des sites miniers et de poursuivre en justice les individus impliqués dans le commerce illégal des minerais. Pour ce qui est des forêts, Global Witness recommande à la RDC de maintenir le moratoire sur l'attribution de nouveaux droits d'exploitation forestière à grande échelle. Pour terminer, cette ONG qui enquête même des campagnes pour prévenir les conflits et la corruption liées aux ressources naturelles souhaite que les ressources naturelles de la RDC soient utilisées dans l'intérêt de la population.
Merci Lévin Mbwinga. À Kinshasa, les autorités congolaises préfèrent analyser d'abord le document de Global Witness avant de donner leur point de vue dans un bref délai. Daniel Balint-Torti, je rappelle que vous êtes chef de campagne RDC à Global Witness. Ce document contient quand même des affirmations qui sont très fortes, telles que le précédent gouvernement congolais a secrètement cédé des actifs miniers lucratifs à des entreprises obscures. Sur quels éléments concrets vous vous êtes fondé pour peaufiner ou pour confirmer ces assertions?
Bon, je pourrais en parler pour longtemps, pour des heures et des heures, mais on a beaucoup d'informations très concrètes. Par exemple, il y avait le plus grand société du monde dans le commerce des matières premières, Glencore, qui en mai de l'année dernière, quand ils ont été cotisés pour la première fois en bourse, ils ont publié un rapport où ils détaillaient le fait qu'il y avait 20% de la mine Mutanda et 25% de la mine Kansuki qui ont été vendues à des sociétés et qui sont enregistrés aux îles Vierges britanniques. Avant, personne ne le savait. Il fallait que ça devait être cité sur la bourse. C'est un exemple que je vous donne. C'est des informations publiques et officielles.
Alors, il y a d'autres affirmations. Certains de ces actifs ont été vendus à un prix très inférieur à la plupart des estimations commerciales de leur valeur. C'est pourquoi vous estimez que tous les détails relatifs à ces ventes devraient être divulgués et que les enquêtes impartiales devraient être ouvertes sur tous les cas de corruption présumés. Donc, il y a, à vous comprendre, une telle opacité autour de cette question qui était difficile à cerner.
Oui, pardon, moi, j'ai fait des recherches, j'ai parlé avec toutes les sociétés que je pouvais, toutes les sociétés commerciales qui ont fait des valorisations de ces mines. Par exemple, Frontier et Longchi, qui avant appartenaient à First Quantum. Quand l'État les a, quand le Sodi Mikko les a revendus, c'était à un niveau qui était à peu près 5% de la valeur réelle. Des mines selon les sociétés commerciales de valorisation, les sociétés qui sont expérimentées dans ce genre de choses. C'était la même chose pour la mine de Kolwezi, c'était vendu à peu près le même pourcentage des estimations commerciales. Quand vous regardez Mutanda et Kansuki, ils étaient vendus à peu près la cinquième des estimations, si je prends le moyen des estimations qu'on a eues. Alors, ce sont des signes de danger. Quand on voit ça, il faut arrêter. On va voir dedans. On va savoir la vérité de ce qui s'est passé. Qui sont les propriétaires des sociétés basées aux îles Vierges britanniques? Dans les îles Vierges britanniques, c'est officiellement un secret. Qui sont les actionnaires des sociétés? Il y a un danger parce que ça s'est passé par le passé dans plusieurs pays du monde. Il y a un danger qu'il y a les membres de l'élite ou les membres de la famille des élites qui sont actionnaires dans les sociétés basées aux îles britanniques ou à Hong Kong. Donc, toutes ces sociétés, on ne sait pas qui sont les actionnaires. Et c'est quelque chose qui est très dangereux, ça ne devrait pas être permis.
Alors, ce réseau auquel vous faites allusion, qui part de Kinshasa jusqu'aux îles Vierges, est-il facile à démanteler?
Non, ce n'est pas facile parce que c'est le système international qui marche comme ça. Global Witness travaille sur toute la chaîne internationale. On a posé des questions à ceux qui sont liés à ces sociétés aux îles Vierges britanniques. On a parlé de l'implication des grandes sociétés telles que Glencore, parce que finalement, c'est eux qui. Bon, ils sont liés à ces sociétés. Et il y a une autre société qui est aussi une des plus grandes sociétés citées sur la bourse de Londres, IMRC, qui a été l'acheteur final. Alors, c'est vendu à un prix très très bas à des sociétés aux îles Vierges ou dans les autres paradis fiscaux. Et après, ces sociétés vendent à des sociétés internationales. C'était le cas avec INRC. Tout le bénéfice, c'est fait par la société basée au paradis fiscal. Ça devrait être fait, le bénéfice devrait être fait par le gouvernement congolais. Ça devrait être quelque chose qui bénéficie le peuple congolais, pas des gens inconnus dans les paradis fiscaux.
Dans ce document, vous épinglez également la démilitarisation des zones minières qui continue à demeurer un véritable défi.
Oui, c'est un sujet sur lequel Global Witness a battu campagne depuis longtemps, en commençant dans le milieu des années 90, à Liberia, à Sierra Leone, à Angola. Et on croit que notre intervention a beaucoup aidé la guerre de finir dans ces pays. Ça reste toujours un grand problème à l'est du Congo. On reconnaît les efforts du gouvernement congolais. On salue le fait qu'il y a eu un décret qui a été promulgué dernièrement, disant que les règles de certification du CIRGL devraient être respectées au Congo, qu'on va mettre en place cette certification. Alors, il y a des mouvements comme ça, des développements comme ça qui sont très bien. Dans le document, on a remarqué qu'il y a toujours des militaires dans les sites miniers. Il y a toujours un commerce de minerais qui est contrôlé en partie par des militaires, y compris des militaires ex-CNDP. La présence de Taganda, le pouvoir de Taganda dans ce commerce est inquiétant et je crois qu'il faut qu'on en parle.
Alors, avant d'accueillir Lem Scamonia qui a fait son entrée dans ce studio, la société civile congolaise Daniel Balinskorti a-t-elle joué son rôle dans ce domaine?
Oui, il y a une très bonne société civile congolaise avec laquelle on est en communication, on a collaboré. Je crois que dans l'Est, il y a des groupes tels que Credo, il y a la CDH aussi, ici à Kinshasa, le Bashi, qui ont fait un travail vraiment excellent. Ils font beaucoup de travail dans les forêts. Et aussi, ils poussent beaucoup pour la transparence dans le secteur des ressources naturelles en termes général.
Lem Scamonia, vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promis, structure dépendant du ministère des Mines. Ce document rappelle un peu le document le rapport Mutamba Dibwe hein, du Sénat d'il y a quelques années. Comment vous l'avez reçu? Ce n'est pas nouveau, décidément.
Oui, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire dans ces rapports, quand vous les lisez, il n'y a pas quelque chose de nouveau. La plupart des matières qui sont abordées, ce sont des matières qu'on a déjà eu à débattre ici.
Et que rien n'a changé, en d'autres
termes. Oui, en réalité, rien n'a changé. Peut-être moi, ce que j'ai trouvé qui a changé, c'est le fait que Global Witness appelle le gouvernement à modifier plutôt, à changer radicalement la façon les modalités de gestion du secteur des mines. Et je crois que cette affirmation, elle est partagée par le gouvernement qui est en train de prendre des mesures pour voir dans quelle mesure on doit modifier de manière radicale la gestion du secteur des mines, en commençant d'ailleurs par la retouche du code minier, en faisant respecter toutes les lois en matière du désengagement de l'État des entreprises du portefeuille, en modifiant les lois sur l'accession donc en respectant les lois sur l'accession des actifs et les recours à des procédures d'appel d'offres lorsqu'il s'agit de céder les actifs miniers. Parce que tous ces problèmes qui sont décriés, c'est le fait que les contrats, ce n'est pas comme ils le disent, les sociétés, ces actifs ont été secrètement cédés. Les actifs ont été cédés par ensemble direct, de gré à gré. Ce qui a été le cas pour la plupart de tous les contrats miniers qui existent dans ce pays. Vous ne trouverez pas deux ou trois contrats qui ont été cédés par appel d'offres. Or, si vous procédez par appel d'offres, il n'y a plus de transparence et il y a une possibilité de pouvoir identifier quels sont les compétiteurs et sur qui les gouvernements devraient déjà son évoluer en fonction des conditions favorables qu'ils proposent au gouvernement congolais. Et peut-être aussi c'est là où il faut souligner le fait que c'est lorsqu'il y a des compétiteurs que vous allez trouver quels sont les véritables opérateurs miniers identifiés ou avec qui il faut continuer à traiter. Je crois à ce jour, les dispositifs légaux en matière soit du désengagement de l'État d'entreprise publique, soit du recours à des procédures d'appel d'offres, les dispositifs légaux existent. Ce qu'il faut demander au gouvernement, c'est de pouvoir, cette fois-ci, lorsqu'il y a cession des actifs, de pouvoir respecter ses propres lois. Et si, ce qu'il faut se reconnaître, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame entre ce que les actes que posent les entreprises commerciales, qui sont dotées d'une personnalité juridique différente du gouvernement, les confondent comme étant les gouvernements. Et je crois l'ensemble des réformes qu'on a initiées dans ce pays, d'ailleurs la plupart qui ont été dictées et même poussées par les bailleurs de fonds, ces réformes ont voulu que les entreprises publiques sortent du giron d'un contrôle effectif de l'État que les entreprises se comportent comme des sociétés commerciales. C'est-à-dire vous donner aujourd'hui la possibilité aux mandataires des entreprises de poser des actes sans se référer au gouvernement. Peut-être là-dessus, c'est ce qui fait que les deux cas qu'il évoque des actifs cédés au niveau de Mutamba Mining, au niveau de la Sodimico, ce sont des entreprises considérées aujourd'hui comme commerciales. Lorsqu'elles posent des actes de gestion, le gouvernement ne peut pas interférer. pendant qu'elle pose ses actes, mais peut revenir, comme ils le disent, par la suite pour contrôler et voir si ça n'a pas été bien fait et voir dans quelle mesure régulariser. Donc, il faut éviter de mettre sous le dos du gouvernement tous les actes qu'elle pose sur le public. Peut-être c'est demander au gouvernement d'accroître son pouvoir de contrôle, peut-être de contrôle a priori, lorsqu'il s'agit par exemple de la section d'actifs assez importants. Sinon, on va incriminer les gouvernements pour rien pour des actes que posent les entreprises. Quand du même espérer étatique.
Alors, il n'y a rien de nouveau dans ce document de Global Witness. Oui, ça ressemble à plusieurs autres rapports, mais l'EMS-Témoignat, je pense que les auditeurs qui nous suivent aimeraient quand même savoir pourquoi les choses ne changent pas. Ce sont les mêmes rapports qui se répètent. Qu'est-ce qui fait que ça ne change tellement pas sur le terrain?
Non, si vous prenez les cas que Global Witness évoque aujourd'hui, la session, que ce soit le Mutanda Mining, les parts de la Sodimico, ça n'a pas été cédé aujourd'hui. C'est des dossiers qui datent maintenant de 18 mois. Et on a eu l'occasion sur ce plateau de débattre de ces questions. Je pense que c'est ça la réalité. Et aussi, il ne faudrait pas considérer la situation de la RDC comme étant une situation statique, ce n'est pas une photographie. Et je crois que M. Daniel l'a reconnu que les gouvernements sont en train de faire des efforts. Ce que nous demandons, c'est que.
Il semble être noyé par l'ampleur des problèmes.
Non, c'est-à-dire le dispositif existe, maintenant il faudrait pousser les institutions à pouvoir respecter ces dispositifs. Et je suis très content quand vous avez pour cette question de savoir qu'est-ce que la société civile, non seulement étrangère, même nationale. Moi je dis toujours, mais pourquoi cette société civile, lorsqu'elle constate qu'il y a certains actes qui posent les sociétés publiques, pour des actifs ou des opérations qui ont un intérêt général, mais cette société civile peut se constituer en perte d'opposition pour bloquer certaines transactions à se réaliser. C'est une possibilité offerte par la loi. Alors, on ne doit pas être là, c'est quand on est chaque fois à crier, à répéter les mêmes histoires, sans poser des actes concrets. Peut-être cette fois-ci, on demande au gouvernement d'assumer ses responsabilités, de respecter ses lois, d'accroître son contrôle au niveau de la gestion des entreprises publiques et au même moment de pouvoir améliorer. Et aussi, nous ne devons pas réduire toute la gestion du secteur minier rien que aux simples contrats qui peuvent être passés, parce que ces contrats-là ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble du vaste domaine minier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans les mines. On était ce matin dans la conférence avec le Fonds monétaire international. On a essayé de découvrir des nouveaux pans qui intéressent la gestion de tout un secteur des mines. Ces contrats sont en train de s'épuiser, c'est des contrats qui ne seraient pas les entreprises, mais comment gérons notre domaine minier? Comment pouvons-nous faire en sorte que les rentes que nous tirons du secteur minier puissent être utilisées de manière rationnelle aujourd'hui dans l'investissement public pour les générations futures? Donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions qui intéressent, étant donné qu'on a un domaine qui n'est pas encore suffisamment exploité.
Willy Kalingay, directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. On a un peu l'impression que toutes ces recommandations, tous ces rapports semblent tomber un peu dans des oreilles de sourds.
Moi, je ne pense pas. Je crois quand même qu'il y a lieu de signaler que depuis quand même quelques mois, des progrès certains ont été observés sur le terrain. Je vais vous en citer quelques-uns. J'ai lu le rapport de Global Witness et je suis par exemple surpris qu'ils n'ont pas parlé du certificat régional. Je crois quand même que c'est un des instruments majeurs pour la traçabilité et surtout aussi pour le combat contre les commerces illicites et minéraux. Ça, c'est 11 pays qui sont mis ensemble pour pouvoir essayer de mettre des mécanismes qui peuvent permettre à ce que l'on puisse. Et c'est pour ce côté-là que la traçabilité. Mais je me dis que c'est vrai que nous sommes à la croisée des chemins, et là, Global Business a raison, c'est que l'on doit se poser fondamentalement des questions de fond. Les options levées dans le code minier pour l'exploitation des ressources naturelles, toujours dans le cadre des mines, étaient-elles susceptibles d'amener des moyens dans le pays et de permettre à ce que le peuple puisse en jouir. Est-ce qu'il ne faudrait pas alors rentrer dans le code minier, parce que c'est l'occasion d'en parler, et de se poser de vraies questions. Parce que nous avons fait l'exploitation pendant 10 ans sur le code minier. Aujourd'hui, vous allez voir, indépendamment de la corruption, indépendamment du commerce illicite des ressources naturelles. Je regarde simplement les rapports de l'IPI 2008-2009, c'est témoin. C'est que le secteur minier a rapporté au budget de l'État sur l'année passée, sur 2 ans, c'est moins d'1 milliard de dollars, donc c'est au-dessus de 300 millions. Et pourtant, la production humaine cumulée, nous dépassons autour de 450 millions. C'est que même si nous mettons en place des systèmes de traçabilité, des mécanismes transparents, le secteur minier n'est pas aujourd'hui, il n'apporte pas suffisamment de moyens à l'État. Il faut se poser la question, est-ce que l'État a-t-il bien fait de mettre en place un code minier où il est totalement désengagé? Ou faut-il encore espérer que l'État puisse faire comme dans certains autres pays, retour à ce qu'on appelle les fonds souverains? Moi, je n'ai pas de réponse maintenant, mais je me pose une question. Est-ce qu'il n'est pas temps quand même que l'on s'interroge si l'option levée en 2002 à la promulgation du code minier, cette option pouvait nous amener à faire jouir le peuple des ressources naturelles? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez déjà cédé vous avez déjà cédé une mine ou un périmètre minier à une entreprise, et là, sa personnalité, elle fait défendement ce qu'elle veut. Vous ne pouvez pas encore, vous ne pouvez vous contenter que de respect fiscal. C'est la réalité. Donc, même quand on dit que le peuple congolais doit jouir des recettes issues de l'exploitation naturelle et des ressources naturelles, mais ces ressources, à partir du moment où le code permet à ce que des entreprises exploitent en leur nom et non au nom de l'État congolais ces ressources-là, l'État ne peut se contenter que d'une fiscalité. Et vous connaissez la fiscalité qui est attractive dans les codes miniers. Donc, on doit s'interroger. Donc, le code minier est à revoir. Je vous dis que les grandes options sont à revoir. Il faut absolument que l'on, sans pression, parce que je sens quand même que depuis que dans le pays on parle de réviser le code minier, la pression vient de partout. Hein. Je la sens Banque mondiale, Commission internationale, aujourd'hui Global Witness, tout le monde est en train de savoir où est-ce que les Congolais vont aller. On ne veut pas du désordre, c'est vrai. On ne veut pas du changement brusque, c'est vrai. Mais si l'option fondamentale, et je crois que la première phrase du rapport du Global Witness le dit bien, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et l'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Donc vous savez bien qu'il n'y a pas un lien organique entre les richesses naturelles et la jouissance. Les richesses doivent être mises en valeur pour qu'elles puissent faire jouir au peuple. Et cette mise en valeur-là, elle demande des moyens, d'une technologie, elle demande un cadre juridique. Donc nous ne pouvons pas penser que, moi je pense qu'il faut changer les choses et que le moment est venu pour que l'État congolais se pose réellement la question de savoir s'il avait bien fait en 2002 de libéraliser à ce point.
Y a-t-il un bilan qu'on pourrait déjà dresser à Willy Kalinga et du système de traçabilité?
Oui, moi je pense qu'il y a quand même un bilan. Il faut être honnête et le reconnaître. À partir du moment qu'aujourd'hui nous avons quand même un certificat régional, j'espère qu'il va entrer en fonction rapidement. À partir du moment où nous avons quand même certains pays qui commencent à restituer des minéraux capturés ou, je sais pas moi, qu'on a pu retrouver dans certains pays comme le Rwanda, etc., Ouganda, je peux me dire effectivement qu'il y a un bilan, mais il est mitigé. Il est mitigé parce que je suppose que le nombre des matières premières, le nombre des ressources naturelles qui sortent par fraude et les réseaux mafieux installés surtout à l'est du pays est encore intact. Il n'a pas été touché dans sa substance parce que ce réseau est alimenté par une partie des gens officiellement installés dans leur position. Je crois qu'il faudra toucher dans la fourmilière, bousculer les gens dans leurs propres fonctions et même surtout démilitariser. À ce moment-là, nous pourrons avoir un bilan positif.
Et je pense que c'est également, il y a l'auditeur Gérard Kazinkoukou de Benin Orkivu qui partage cette analyse parce qu'il dit, parler de la gestion de ressources naturelles congolaises est un sujet tabou, le réseau des bénéficiaires est tellement quadrillé à l'intérieur comme à l'extérieur, ces recettes vont dans la caisse noire de certains politiciens. Voilà. Alors, allez-y, les calégaïs.
Non, c'est vrai que je n'ai pas jusqu'à dire que bon, les recettes de cuivre qu'on a vendues par cette entreprise, c'est celle pour ceux qui font ça. Non, je dis effectivement qu'il existe effectivement aujourd'hui une relation, je peux dire incestueuse, entre des positions d'État, de certaines personnalités, et certaines richesses que l'on voit s'accumuler autour d'eux en fonction de cette position-là. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Est, vous n'allez pas vous étonner de constater que certains administrateurs de territoire, des officiers de l'armée et des certains commerçants ont une certaine richesse insolente qui n'est pas justifiée par leur salaire ou par leur solde.
Il n'y a rien de nouveau dans ce que Global Witness a dit, fin de citation, c'est en ces termes qu'a réagi Jean-Pierre Moteba, membre du Comité national de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives, qui en cible est président de la société civile du Katanga. Il plaide cependant pour la création d'un tribunal pénal international pour les crimes économiques et invite Global Witness à soutenir l'ITIE dans cette initiative pour un travail approfondi. Jean-Pierre Moteba est au téléphone de Samuel Kachak.
Il faut, pour une société civile de la RDC aujourd'hui, mettre en place un tribunal pénal international pour les crimes économiques. Et les crimes économiques ne concernent pas que les citoyens de la République démocratique du Congo, mais aussi les ressortissants de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des pays européens qui sont en train de signer des mauvais contrats et détourner des moyens de l'État congolais au profit soit de leur pays, soit des entreprises de leur pays. Donc c'est des questions comme ça que nous aimerions que notamment Global Witness puisse, avec nous faire un travail beaucoup plus approfondi qui ne regarde pas que le gouvernement congolais, mais qui aussi concerne les gouvernements des États d'origine de ces entreprises qui signent des contrats, quand bien même ces entreprises sont localisées dans les paradis fiscaux, lesquels paradis n'existent que dans les pays occidentaux. Ce tribunal aurait pour mandat notamment de pouvoir traduire tous ceux des Congolais qui sont membres des réseaux d'élite, qui ont pu à un certain moment de l'histoire de notre pays compromis le développement du pays, l'exploitation heureuse des ressources naturelles par des détournements, par des ventes, par des contrats dont il est question.
Voilà, cet aspect nous introduit déjà dans la deuxième partie pour ce qui concerne l'amélioration de la gestion de ressources naturelles en RDC. Daniel Balint, aussi chef de campagne RDC à Global Witness, un tribunal pénal international pour les crimes économiques, cela pourrait-il améliorer les choses sur le terrain en RDC?
C'est une idée dont on a parlé de façon interne à Global Witness. Je crois que c'est une idée qui fait le tour, si vous voulez, dans certains milieux en Europe. Je pense que, en principe, c'est une bonne idée parce que il y a les tribunaux internationaux qui traitent des violations des droits de l'homme. Le problème, c'est ça arrive quelquefois dans certains pays que vous avez des systèmes du gouvernement qui sont basés sur le vol et que des pays entiers sont devenus un peu les jouets d'un petit groupe de gens qui extrait toutes les richesses et les met dans les comptes bancaires à l'étranger. Et ça, c'est une crime. Et si ça se passe dans des pays pauvres, les gens ne peuvent même pas se nourrir, ça devient pas seulement un crime économique, mais c'est aussi un petit crime humanitaire. Alors oui, un tribunal international pour les crimes économiques, c'est très bien, mais ça devrait traiter d'abord les plus grands crimes, les régimes qu'on dit kleptocrates.
Mais est-ce que c'est une proposition réaliste?
Je crois que ce n'est pas irréaliste, mais ce ne sera pas pour demain. Mais les rapports, par exemple, de Global Witness, par exemple, on a regardé la façon dans laquelle les richesses de Turkménistan en Asie ont été gérées par le passé. Il y a certains pays où tellement d'argent a été volé qu'on pourrait trouver un consensus d'amener ça dans un tribunal international. Pensez au régime d'Abacha, de Sani Abacha à Nigeria. Des milliards sur des milliards étaient posés dans les comptes bancaires. Ce n'est pas impossible de voir un jour un tribunal international pour des crimes comme ça.
Alors, dans les recommandations, vous demandez notamment au futur gouvernement et au Parlement de revoir un peu, d'améliorer la gestion la gestion des ressources minières, pétrolières et forestières du pays. Mais il y a cet internaute qui nous a écrit, Wally Nkoui, qui dit à combien, à quel pourcentage les ressources pétrolières contribuent-elles au trésor public? Le Parlement actuel pourra-t-il contrôler ce secteur ou le laissera-t-il au cercle très restreint de certaines autorités? Nous pensons que le bradage des ressources naturelles de notre pays va continuer parce que le système est le même, le manque de sanctions cours de la législature passée n'a fait que bénir les charognards. Daniel Bangin, sorti.
Je pense qu'il ne faut pas être complètement pessimiste. Alors, on a fait des recommandations, par exemple, pour le code des hydrocarbures, le code minier qui seront, on espère, révisés pendant le courant du présent mandat. Et si, par exemple, le code minier dit plus explicitement qu'il faut que quand on vend des actifs miniers ou pétroliers, il faut qu'il y ait des appels d'offres, comme avait dit M. Camonien tout à l'heure, ça améliorera les choses. Alors, il faudra qu'il y ait des règles claires dans le code minier, dans le code des hydrocarbures. Il faut aussi que toute société qui investit au Congo déclare les vrais propriétaires, et ils ne doivent pas se cacher dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, oui, il y en a beaucoup qui sont contrôlés par les pays européens. Hong Kong aussi, c'est une sorte de paradis fiscaux, c'est quelque part où on peut enregistrer les sociétés sans que les noms soient connus. C'est une secret qui sont les actionnaires de ces sociétés.
Même Samoya, vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promis, structure dépendant du ministère des Mines. Comment vous percevez la proposition d'un tribunal pénal international pour les crimes économiques?
Bon, c'est une idée qui peut toujours être discutée, mais je dirais qu'en matière économique, et ici surtout en matière financière, je crois mettre en place un tribunal peut-être allongerait beaucoup de choses. Si nous prenons les contrats qui ont été signés, que nous considérons comme étant problématiques, il n'y a pas une centaine, c'est moins de 100 contrats. Et nous considérons que les bénéficiaires, ce ne sont pas des Congolais. Les grands bénéficiaires sont plutôt à l'étranger, dans les pays occidentaux, où on nous dit qu'il y a de l'ordre, où on nous dit que les comptes bancaires sont surveillés. Ces gens qui viennent par ici au Congo, cet argent n'est pas gardé au Congo, c'est gardé dans leurs comptes. Toutes les actions des entreprises minières congolaises ici, elles sont traitées où ça? Dans les bourses connues, on va vous dire que c'est à Toronto, on va vous dire que c'est à Sydney, on va vous dire que c'est à Paris. Donc c'est connu où ces transactions se traitent. Et on connaît qui sont derrière ces entreprises. Donc si on vérifie ces entreprises, on regarde le niveau d'accroissement de leurs comptes bancaires, sans qu'il y ait une activité quelconque, c'est facile à identifier ces personnes qui sont impliquées dans ces... Je crois qu'avec un minimum de surveillance, un minimum de coopération des pays occidentaux, il est possible d'identifier ceux-là qui viennent et qui profitent grandement des ressources. Même les paradis fiscaux, on les identifie, on vous dit que c'est les îles Vierges. Donc ce n'est pas secret, c'est connu que c'est les îles Vierges. On connaît que c'est telle société. Quand il y a une transaction financière, une transaction bancaire, à l'heure actuelle de la mondialisation, avec une inflation poussée, on sait retrouver toutes les traces d'écriture là où l'argent a été versé. Donc on sait remonter jusqu'au propriétaire. Je crois qu'un tribunal alourdirait des choses avec un minimum de bonne volonté, la coopération des pays occidentaux, il est facile de mettre fin à ces fléaux et décourager ceux-là qui viennent non seulement piller, mais ternir aussi l'image de leur pays d'origine.
Franklin Matumaini de Bukavu, soutenez-vous. Je pense que le pillage des ressources naturelles peut être facilement combattu sur le plan officiel national, car ce faisant sous couvert des personnalités, des entreprises et intermédiaires connus, mais sur le plan local, l'éradication de ce pillage pose des problèmes parce que tout échappe à la quantification. À mon avis, il faudrait recoloniser les anciennes carrières par la mise à la disposition des creuseurs d'une technologie adaptée au rendement et susceptible d'être maîtrisée, ensuite supprimer l'existence des grands et petits négociants d'instruments.
Oui, donc ça c'est la question fondamentale. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que réformer le secteur, mettre fin à la corruption. La corruption est devenue endémique, systémique dans les pays. Chacun, M. Willy Kalinga, il l'a évoqué. Si vous allez à l'Est, bon, le chef de lui-même, il l'avait évoqué. Quand on avait suspendu les activités minières dans les trois provinces, les rapports avaient clairement dit qu'il y avait les autorités civiles, militaires, administratifs qui étaient impliqués dans tout ce commerce qui est là. Donc, à ces jours, ce sont là les véritables réformes qu'il faut engager dans ce pays. Je crois que si ces réformes sont menées à tous les niveaux et qu'on remette de l'ordre, par exemple, moi j'ai apprécié la loi Dodd-Frank des États-Unis, ça nous permet aujourd'hui de diminuer l'influence des groupes armés parce qu'aujourd'hui, vous pouvez exploiter de manière illégale les ressources, mais vous ne savez pas où les vendre. Ça commence à décourager la plupart de ceux-là qui faisaient ce travail. Ça, c'est déjà des bonnes initiatives qui sont prises pour arriver à mettre hors circuit. Maintenant, il faut trouver des solutions pour éviter que les autorités civiles, les autorités militaires s'impliquent dans l'activité minière. Il faut renforcer les capacités de l'administration locale. Il faudrait que les personnes qui travaillent pour le contrôle des opérations minières soient correctement rémunérées. Donc, il y a autant de réformes et il faudrait imposer la sanction. Il faudrait qu'il y ait une surveillance financière de toutes ces personnes qui sont en contact. Donc, ça appelle tout un nombre, toute une batterie de mesures qu'il faut mettre en place, qui ne doivent pas seulement se limiter strictement sur le plan minier, mais qui doivent toucher l'ensemble des secteurs qui lui sont directement associés.
Avant de donner la parole à Willy Kalingay, Global Witness met l'accent sur l'action du gouvernement et du futur gouvernement et de l'Assemblée nationale, qui a un grand défi, celui cette fois-ci, quand même d'exercer le contrôle comme il faut à l'instant.
Oui, je le vois bien. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons clarifier les rôles. On ne doit pas faire une mayonnaise. L'Assemblée nationale, son rôle, c'est par exemple, quand nous disons retoucher les codes miniers, c'est avoir une bonne loi qui pourrait permettre que les transactions se déroulent pour éviter la corruption, pour éviter les pots de vin et tout ce qu'il y a. Et peut-être procéder par la suite à un contrôle de l'action gouvernementale. Les gouvernements, c'est exécuter les lois, faire en sorte que l'administration et la gestion du secteur des mines soient efficaces. Les cours et tribunaux doivent jouer leur rôle pour réprimer les infractions, pour arrêter ceux qui sont impliqués dans les crimes. C'est pourquoi moi j'aimerais, si nous disons au gouvernement, nous simplifions les choses. Hein, on va donner, on ne sait pas qu'est-ce qu'on demande exactement au gouvernement. Je crois ici, il faut responsabiliser chaque composante de l'État. Il faut que chaque composante de l'État puisse donc poser concrètement ses actes, quand bien même les gros reviendraient au gouvernement qui a la charge de la gestion et d'amélioration des conditions de vie secteur.
À titre informatif, notez qu'il y a Marie Arena, une sénatrice belge, qui vient de déposer deux propositions de résolution à la Commission Relations Extérieures du Sénat belge concernant l'exploitation des minerais en RDC et le secteur agricole. En résumé, ces deux résolutions invitent le gouvernement belge, l'Europe et les autorités congolaises à prendre une série de mesures précises pour réorganiser et réguler ces deux secteurs afin que leurs exploitations participent à l'amélioration de la vie sociale et économique des habitants de ce pays. Il s'agit par exemple de responsabiliser les distributeurs et les consommateurs belges par une meilleure information sur l'origine des produits, de plaider pour une application contraignante des normes en matière de fiscalité propre ou encore de plaider pour l'instauration des tribunaux pénaux internationaux pour les crimes économiques. On en parlait déjà, Willy Kalingay. On a l'impression que la communauté internationale, que l'étranger, que l'extérieur a un souci plus grand apparemment que le gouvernement congolais lui-même.
Bon, il faut relativiser cet intérêt. Moi, je pense qu'il faut mettre tout ça en perspective des problèmes qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes quand même parmi les pays qui ont encore des ressources naturelles abondantes. Et ces ressources n'intéressent pas que notre économie, ces ressources nous financent aussi la croissance dans notre pays. L'année prochaine, cette année 2012, les perspectives économiques voudraient quand même que la croissance mondiale baisse un peu. On pourrait être autour de 4%. Donc, il faut gérer bien les sources d'approvisionnement. Et là, si elles sont dans des états comme le nôtre, il faut bien avoir un regard sur la manière dont ces ressources sont gérées. Est-il que nous pouvons en profiter de cette disponibilité de certains gouvernements étrangers pour nous organiser? Moi, je pense que le plus grand problème, et je crois que Léon Scamand l'a dit, même Daniel l'a dit, c'est l'autorité de l'État. Il faut d'abord qu'il y ait un État puissant, un État fort, et c'est dans ce cadre simplement que le commerce, que l'activité extractive, que l'activité même générative des revenus peut se dérouler très bien. Aujourd'hui, nous sommes perçus comme un État fragile. L'idée sur les rapports, nous ne sommes même pas un État à revenu faible, même pas un État à revenu intermédiaire, nous sommes un État fragile. Ça veut dire un État dans lequel on ne peut pas faire une planification à longue durée. Donc le grand enjeu aujourd'hui, c'est que nous devons restaurer un état de droit, restaurer l'autorité de l'État, notamment de la République. Ainsi, nous pourrions construire dans les domaines des ressources naturelles une structure qui soit respectueuse des équilibres dans le pays. Donc, on a parlé des tribunaux pénal international et je crois que c'est une bonne chose. Mais pour le moment, pour votre information, il existe un tribunal populaire. Mais ce sont les tribunaux qui sont généralement à la fin du régime. Vous voyez comment certains, quand ils ont tellement amassé des ressources, quand ils sont arrivés à la fin d'un régime, par exemple un coup d'État ou le départ comme le printemps arabe, regardez ce qui se passe, le peuple essaie de récupérer l'ensemble des ressources qui ont été amassées dans des pays étrangers. Donc le besoin de récupérer ces ressources qui ont quitté notre territoire vers des paradis fiscaux, vers des pays occidentaux, ces besoins existent. Mais la criminalité, elle est organique aujourd'hui. Elle prend ses ressources dans notre propre pays, mais elle a des complices objectifs. Parmi les criminels, et je crois que l'homme justement l'a dit, il y a aussi ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont conscients de notre fragilité et profitent justement de cette fragilité-là pour nous imposer un certain nombre de choses. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela.
Guy, je reprends à la réaction de Guy Tindambo de Lumumba Katanga. Cet ONG Global Witness a totalement raison, car notre génération se comporte comme si le monde va s'arrêter avec nous. Willy Kalingai, la RDC est-elle préparée pour une exploitation durable?
Bon, je crois que nous sommes encore un pays où les ressources naturelles sont immenses et il ne faudrait pas que nous puissions jouer au pessimisme. L'organisation, et je pense que quand vous regardez, tout à l'heure j'en parlais un peu en off avec mon voisin de gauche, Daniel, en disant que j'accusais un petit peu comme ça de manière amicale Global Business d'avoir lié l'existence des ressources naturelles au bien-être de la population. Il y a des pays qui n'ont aucune ressource naturelle, mais dont le bien-être a été assuré. Qu'est-ce qui a assuré ce bien-être-là? C'est l'organisation. Aujourd'hui, dans le monde, entre quels sont les facteurs les plus importants qui déterminent le bonheur des peuples, 56% d'abord, c'est l'organisation. Ensuite, vient les infrastructures et enfin les ressources naturelles.
Alors, en guise de conclusion, Willy Kalingai, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir?
Moi, je pense que dans notre pays, il nous faut développer très rapidement quand même un nationalisme dans le domaine des ressources naturelles. Il faut que le Congolais, dirigeant, société civile, tous les grands intervenants, nous ayons l'indignation de ne pas toujours être les élèves, qu'on ne doit pas nous dire ce que nous devons faire de ce que nous avons comme ressources. Si nous avons l'amour de notre pays, développons ce nationalisme dans les ressources naturelles.
Daniel Balint, Curti, chef de campagne RDC Global Witness, en guise de conclusion, ce que les auditeurs qui vous suivent peuvent retenir.
On a suggéré beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. On a suggéré les solutions. Je crois qu'il faut qu'il y ait plus de transparence dans le secteur des ressources naturelles. On faut savoir à qui appartiennent les sociétés qui exploitent les minerais en RDC. Quand on vend des actifs, il faut qu'il y ait des appels d'offres. Et c'est très important pour le Congo. Maintenant, c'est une période très importante pour donc plus de pétrole et plus de minerais seront développés. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités au plan international et au plan national. Et la nouvelle Assemblée nationale doit jouer son rôle. Aussi bien dans les questions de transparence dont j'ai parlé, aussi sur la question des minerais des conflits et pour aider les populations dans les régions forestières d'être consultées quand les forêts sont exploitées.
Merci. Même Samonia, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs qui vous plaisent?
Je crois qu'ils n'ont qu'à espérer. Il faut que le gouvernement mette en place toutes les réformes comme il a déjà commencé à les faire. Il faut continuer avec ces réformes, avec tous ces programmes qui appuient les renforcements des capacités du ministère des Mines et de l'ensemble du gouvernement qu'on va arriver à régler cette question. Il faut rester optimiste.
optimiste.
Voilà, voilà. Merci à Daniel Labaliste, co-chef de campagne RDC à Global Witness. Merci à Alain Samoigna, coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur des mines promis sur dépendant du ministère des Mines. Et merci à Willy Kalingaï, directeur général de Géopolis, magazine économique des activités extractives. Dialogue entre Congolais est terminé pour ce soir. Merci de votre attention, chers auditeurs et internautes. Merci aussi à Guy Maté, Samuel Kachak, qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. Mimi Kindou et Alain Goy étaient à la technique. Présentation et coordination, Alain Groung Mouching. Au revoir. Thank you.